I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous. Avant cet épisode, un petit mot d'explication. Il y a quelques mois, dans ce podcast, nous vous avions fait écouter un projet d'émission, un pilote qui mêlait science et cinéma, et plus généralement les relations entre la fiction et la recherche à partir de films qui ont marqué l'histoire. On y parlait de Godzilla. Ça nous avait tellement plu qu'on a décidé d'en faire un programme à part entière, en partenariat avec la Sorbonne. Ça s'appelle 7ème Science, ça s'écrit 7 le chiffre, E la lettre, et science au singulier plus loin. C'est animé par l'excellente Perrine Guenson que vous connaissez tous. On va s'y demander si Tony Stark a trouvé la pile du futur, si l'enfant robot est l'avenir de la famille, et se poser tout un tas de questions auxquelles les scientifiques tâcheront de répondre. C'est d'ores et déjà dispo sur toutes vos plateformes et applis de podcast préférées, et je vous propose de découvrir tout de suite le premier épisode où il sera question de Seul sur Mars, et où on va se demander des voyages sur la planète rouge, c'est pour quand ?
Pourquoi on s'y intéresse ? Parce qu'on considère que Mars est dite dans la zone d'habitabilité, en tout cas au regard d'un certain nombre de paramètres pour décrire la vie, on se dit que c'est un endroit où la vie aurait pu apparaître à un moment donné de l'histoire de la planète.
Bonjour à tous, fans de cinéma, mordus de science, ou tous les autres qui se sont dit « bah tiens, et si je cliquais là, il y avait de la lumière ?» En tout cas, bienvenue dans ce tout premier numéro de 7ème Science, où le 7ème art la ramène à sa science. Un podcast de Binge Audio et de Sorbonne Université. Le principe est simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues, auxquelles on fait répondre un expert ou une experte. Ce mois-ci, le film abordé est « Seul sur Mars » de Ridley Scott. Et la question qu'on se pose, que je me pose, que tout le monde se pose, c'est « Les voyages sur la planète rouge, c'est pour quand ?» Et notre expert du jour, c'est Olivier Bessac, directeur de recherche CNRS à Sorbonne Université, dans l'Institut de minéralogie, de physique, des matériaux et de cosmochimie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la planète rouge, petit rappel des faits dans Seul sur Mars. Matt Damon y joue l'astronaute Mark Watney, laissé pour mort par ses coéquipiers lors d'une expédition sur Mars, car une tempête les a obligés à décoller en urgence. Mais Mark, blessé mais bien vivant, se réveille seul, donc, comme l'indique le titre, sur une planète carrément hostile, sans moyen de repartir. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. Et en attendant les secours, ce botaniste de formation va réussir à faire pousser des pommes de terre, bah oui, et se créer un vrai petit chez lui sur Mars.
Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien.
Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage.
Passez-le.
Mon Dieu.
Mark Watney est toujours en vie.
Vous avez aimé le film, Olivier ?
Oh, je l'ai vu, je l'ai même revu et je l'ai montré à mes enfants qui l'ont bien aimé. Et oui, j'ai bien aimé. Bon, il a des côtés un peu exagérés, mais il a un côté assez vraisemblable et qui est plutôt plaisant quand on a un œil un peu, je dirais pas expert, mais qu'on s'intéresse à ces affaires-là.
Bon, revenons-en un petit peu à nos moutons. Mars, c'est un grand sujet de prédilection du cinéma de science-fiction, que ce soit par l'entremise des petits bonhommes verts, qui viennent très très rarement quand même en paix, n'est-ce pas Mars Attacks, ou encore par l'exploration spatiale allant de Mission to Mars à Starship Troopers en passant par Ad Astra, et évidemment Seul sur Mars qui nous intéresse ici. Dans tous les cas, la planète rouge est une usine à fantasmes. Mais en réalité, Olivier, pourquoi les scientifiques s'intéressent-ils particulièrement à cette planète et pas à une autre comme Vénus, je sais pas, par exemple ?
On s'y intéresse d'un point de vue scientifique, Parce que peut-être que c'est un des endroits les moins inhospitaliers dans le système solaire et on imagine que si la vie avait pu se développer quelque part, ça aurait pu être sur Mars, pour différentes raisons. Donc Mars, tout d'abord, c'est une planète qui fait à peu près la taille de la Terre, enfin qui est deux fois plus petite que la Terre. Si on résume, le système solaire, il y a quatre planètes internes, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a la Terre, puis Mars. Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle le système solaire externe avec les planètes géantes, gazeuses, Jupiter, Saturne, etc. Mais les quatre planètes que je viens de citer, les quatre premières, sont ce qu'on appelle des planètes telluriques, des planètes solides comme la Terre. Et donc, les deux plus proches sont Vénus et Mars. Alors, Vénus, par contre, elle est plus proche du Soleil. Et la température à la surface de Vénus est plutôt de l'ordre de 400-450 degrés. Donc là, c'est franchement hostile pour la vie. Hein. En tout cas, telle qu'on la connaît nous-mêmes. Alors que Mars est un peu plus loin du Soleil par rapport à la Terre. Et là, la température moyenne est plutôt de l'ordre de moins 40, moins 50 degrés.
Et elle oscille. Un petit hiver au Canada, quoi.
Oh, oui, non, mais elle oscille. C'est pas... Parce que là, c'est une température moyenne à l'échelle de toute la planète. Si on prend le même chiffre sur la Terre, c'est de l'ordre de 15 degrés. Ça veut dire que dans la zone équatoriale, les températures peuvent monter jusqu'à une dizaine, quinzaine de degrés. C'est pas désagréable pour vivre, hein, avec des oscillations très fortes. Pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'on considère que Mars est dite dans la zone d'habitabilité, en tout cas au regard d'un certain nombre de paramètres pour décrire la vie. On se dit que c'est un endroit où la vie aurait pu apparaître à un moment donné de l'histoire de la planète.
Et qu'est-ce qu'on sait en fait du passé de Mars pour l'instant?
Alors, on sait quand même pas mal de choses. Si je résume, c'est une planète, donc, comme je disais, qui est deux fois plus petite que la Terre. Elle s'est formée en même temps que la Terre, il y a à peu près 4,55 milliards d'années. Et comme la Terre, au début, elle s'est formée par accrétion d'astéroïdes. Et donc, c'était un objet très chaud comme la Terre. Par contre, la planète Mars étant deux fois plus petite que la Terre, elle s'est refroidie beaucoup plus vite que la Terre. Et la Terre, elle a une spécificité, c'est qu'elle est stratifiée. Si on part depuis l'extérieur de la Terre, nous, on est sur ce qu'on appelle la croûte terrestre, qui repose elle-même sur ce qu'on appelle le manteau, et à l'intérieur il y a ce qu'on appelle le noyau, qui est une espèce de graine métallique. Et sur Terre, c'est spécifique parce qu'il y a une partie liquide et une partie solide. Et le mouvement relatif de ce noyau liquide, par rapport à la rotation de la Terre, crée ce qu'on appelle le champ magnétique. Et ce champ magnétique, alors certes, il sert à utiliser une boussole, mais il sert avant tout à protéger notre planète de ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire toutes les particules hautement énergétiques émises par le Soleil, et ça protège notre atmosphère. Et notre atmosphère, elle est intéressante à plusieurs raisons, à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'elle nous permet de respirer. Notre atmosphère sur Terre, elle a à peu près une pression qui est de l'ordre de millibars, donc elle permet aussi d'avoir de l'eau liquide à la surface de notre planète. Sur Mars, ce que je vous disais, c'est qu'on imagine, enfin on sait, d'après les modèles, etc., et puis un certain nombre de mesures géophysiques, on sait qu'il y a aussi un noyau. Mais ce noyau s'est solidifié sur Mars. Qui dit solidification du noyau dit absence de champ magnétique qui a disparu très rapidement au début de l'histoire de la planète. Ce qui veut dire que ce champ magnétique n'a plus été là pour protéger l'atmosphère qui a existé à un moment à la surface de Mars et que cette atmosphère a été emportée par le vent solaire. Alors il reste une petite atmosphère sur Mars, elle est à peu près de 6 millibars, c'est-à-dire qu'elle est à peu près 100 ou un peu plus de 200 fois moins dense que celle sur Terre. Elle n'est pas favorable comme celle de la Terre parce qu'elle contient du CO2 et ça, nous sur Terre, on utilise l'oxygène pour respirer, on n'utilise pas le CO2. Et donc aussi, comme elle est beaucoup, beaucoup moins dense, ça veut dire qu'elle ne permet pas, aujourd'hui en tout cas, la présence d'eau liquide sur la planète. Ce qui veut dire qu'on considère que Mars, au début de son histoire, a eu un environnement assez voisin de celui de la Terre, avec une atmosphère, certainement la présence d'eau liquide, et on voit des évidences géomorphologiques, et ça on utilise des satellites qui sont autour de Mars et qui montrent qu'il y a eu la circulation d'eau liquide à la surface de la planète. Donc on considère qu'au début de l'histoire de la planète, il y a à peu près 3,5-4 milliards d'années, au moment où la vie est apparue sur Terre, on considère qu'il y avait les conditions en tout cas favorables pour que la vie puisse apparaître sur Mars.
Donc comment on fait justement pour étudier Mars? Parce que techniquement pour l'instant, en tout cas, personne d'humain n'y est allé, il n'y a pas quelqu'un qui est revenu, qui a fait des petits échantillons sur place. Donc comment on étudie Mars à l'heure actuelle?
On a utilisé tout d'abord des télescopes pour la regarder de loin. Et puis, on a envoyé des sondes. Et ça a démarré dans les années 60. La première image de Mars qui nous est parvenue, c'est la sonde Mariner en 1965. Alors, c'est une image assez trouble, mais qui est assez jolie. On voit des cratères. Et puis là, il y a eu un peu une explosion. On a posé un premier, ce qu'on appelle un atterrisseur qui s'est posé sur Mars, des sondes Viking dans les années 75, les Américains. Et puis, là, il y a eu une période assez calme. Il y a eu le robot Pathfinder qui est dans le film Seul sur Mars, hein, qu'il va utiliser.
On le croise, à un moment donné, il va s'en servir, ouais, c'est vrai.
Voilà, donc lui, c'était à la fin des années 90. Et puis, il y a eu une véritable explosion depuis les années 2000, où on envoie d'une part des satellites. Alors, les satellites, ils tournent autour de la planète, ils prennent des images, ils font des mesures des gaz de l'atmosphère, ils permettent de communiquer aussi avec la planète. Et puis, on pose aussi ce qu'on appelle des robots à la surface de la planète. Il y en a eu un certain nombre, donc il y a eu Pathfinder, il y a eu les célèbres Spirit et Opportunity en 2003-2004. Il y a eu le robot Curiosity en 2012. Il y en a un qui s'est posé aussi l'année dernière qui s'appelle InSight. Lui, il s'est posé et lui, il écoute le bruit de la planète. C'est-à-dire, il écoute, il essaye de voir s'il y a des séismes sur cette planète. Il écoute le bruit du vent, il écoute tous les bruits qui peuvent se passer à la surface de cette planète. Et l'idée, c'est vraiment de voir s'il y a des séismes, de voir si Mars est une planète active ou est-ce que c'est une planète morte. Et puis là, on va rentrer dans une période faste, puisque la NASA va renvoyer un gros robot en 2020, qui s'appelle Mars 2020 pour le moment, on lui a pas trouvé son petit nom. Il y a un appel au vote pour ça.
C'est quoi un petit peu les noms qui l'emportent pour l'instant?
Je sais pas, il y a les propositions, en fait, il y a un vote général qui est organisé par la NASA. Alors, vous pouviez voter parce que c'est clos.
Donc, j'ai hâte de savoir.
Il y a eu Spirit, Opportunity, Curiosity. Il y a aussi un autre robot qui part en 2020, qu'envoyé par l'Europe, par l'Agence spatiale européenne. La mission s'appelle ExoMars, et le robot s'appelle Rosalind Franklin. C'est le nom d'une personne qui est assez célèbre, qui est une scientifique britannique, qui a fait des travaux fondamentaux sur l'ADN dans les années 40-50.
Donc ça, c'est les deux robots qui vont être envoyés bientôt, en 2020, pour aller explorer Mars et finalement recueillir des échantillons.
Comment on fait? On envoie ce robot. Alors, le voyage vers Mars reste une affaire complexe. Le robot se pose et le robot va se balader. Il a des instruments scientifiques qui lui permettent d'analyser la composition des roches. Il va donc recueillir ces données. Ces données, il va les renvoyer vers la Terre, soit directement, soit via les satellites en orbite autour de Mars qui renvoient les données vers la Terre. Ces robots, ils font quoi? Typiquement, le record pour le moment, c'est le robot Opportunity qui s'est posé en 2004 et qui est mort malheureusement en juin 2018. 14 ans, il a fait à peu près 45-50 km. Ça vous donne une échelle.
Pauvre petit robot.
Ce qui a été fatal, en fait, c'est qu'il y a eu une tempête. Il y a des tempêtes absolument spectaculaires qui soulèvent toute la poussière. Et quand la poussière est retombée, elle s'est mise sur les panneaux solaires du robot.
Ah oui.
Et ça a été fatal à l'acquisition d'énergie pour ce robot. Et donc, il est mort de sa belle mort sans énergie. Mais il a quand même fait... Au début, il était prévu pour 6 mois. Il a tourné 15 ans.
Ça va, il a été bien rentabilisé.
Oui.
Bien rentabilisé. Et donc, concrètement, Mars 2020, est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu ce que c'est que cette mission Mars 2020 et peut-être aussi ExoMars, mais je crois que vous faites partie de Mars 2020.
Et d'ExoMars, les deux,
génial.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on envoie ces robots. Alors, la première chose, c'est le voyage. Donc, la mission Mars 2020, c'est la NASA qui gère cette mission, qui fait un appel d'offres pour avoir les instruments scientifiques les plus performants possibles. Et il se trouve que la France, via le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et ses laboratoires universitaires et du CNRS, est capable de fabriquer des instruments qui intéressent la NASA. Le meilleur exemple est l'instrument ChemCam qui tourne sur le laboratoire Curiosity en ce moment sur Mars. Donc lui, il existe depuis 7 ans. Il a fait plus de 700 000 tirs laser sur les roches de Mars. C'est un record. Ça a fourni un certain nombre de résultats scientifiques tout à fait intéressants. Et donc la NASA, elle crée cet appel d'offres. Donc elle va emmener le robot qui va se poser. Donc il décolle en juillet 2020 de Cap Canaveral. Il atterrit en février 2021. Et à partir de là, il va se balader dans un endroit qui a été déterminé, qui s'appelle le cratère de J0.
Et vous, spécifiquement, vous, sur la mission Mars 2020, sur ExoMars, quel est votre rôle particulièrement?
Au laboratoire, on est plusieurs personnes à être impliquées. On travaille spécifiquement sur un des instruments de Mars 2020 qui s'appelle SuperCam. C'est un CamCam modifié, mais comme il fait encore plus de choses, on l'a appelé SuperCam.
Trouver un nom.
Voilà, et on espère qu'il va faire des super analyses. Et donc, lui, c'est une espèce de couteau suisse qui comporte plein de techniques, comme je disais. Il est capable de faire de la chimie et il est capable de voir un peu comment les atomes s'organisent entre eux. Et surtout, il est situé, quand vous voyez les images de ces robots, c'est la boîte de chaussures qui est en haut du mât, là, l'espèce de boîte avec un œil, là, qui est le télescope. C'est un instrument en fait qui analyse à distance, qui est capable d'analyser les roches jusqu'à à peu près une dizaine de mètres autour du robot. Donc en fait, c'est l'œil du robot. Parce qu'évidemment, ce robot, il ne se déplace pas aussi facilement que votre véhicule à la surface de la Terre. Pour lui, faire quelques mètres, c'est quand même un gros challenge. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un instrument qui va être capable de le guider et de lui dire, tiens, il vaut mieux aller là à droite à 3 mètres plutôt qu'à gauche à 3 mètres grâce à cette analyse à distance.
Vous parlez de données morphologiques, c'est-à-dire on a concrètement vu qu'il y a eu de la vie sur Mars?
Alors, morphologie, je disais pas ça. J'aurais dû dire géomorphologie. Géomorphologie, c'est qu'on a été capable de voir, c'est ce qui a beaucoup occupé les scientifiques dans les années 2000, c'est comme sur Terre, si on prend une image depuis un satellite de la surface de Mars, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des formes qui ressemblaient tout à fait aux expressions des fleuves ou des deltas à la surface de la planète. C'était dans ce sens-là que j'employais le mot morphologie. Et d'ailleurs, l'endroit où va se poser la mission Mars 2020 est un l'interprétant comme étant un ancien delta, un endroit où une rivière...
Le cratère G0.
Voilà, et c'était un cratère dans lequel une rivière est venue déverser tous ses sédiments, un peu comme le Nil le fait dans la Méditerranée. Donc c'est un endroit où on dépose beaucoup, beaucoup, beaucoup de sédiments. C'est des endroits sur Terre qui sont assez favorables à l'émergence de la vie, parce qu'il y a beaucoup de nutriments qui sont amenés avec tous ces sédiments. Et puis c'est des endroits qui sont aussi favorables pour préserver la vie une fois qu'elle est morte, puisqu'on enfouit rapidement les objets, et donc quelque part on peut les protéger en les enfouissant.
Votre père menait des expériences sur un matériau top secret susceptible de menacer tout notre système solaire et de détruire toute vie. Nous comptons sur vous pour découvrir tout ce qui se passe là-haut.
Beaucoup de films envisagent l'exploration humaine de manière plutôt fantastique, mais de nos jours aussi de façon plus réaliste, comme Ad Astra de James Gray ou le récent Proxima d'Alice Vinocourt. Car ce but semble de plus en plus probable, accessible, mais... À partir de quand peut-on anticiper ce type de mission, Olivier ?
Par exemple, la mission Mars 2020 qui part, elle a aussi un thème qui est de commencer à préparer l'exploration humaine. Pourquoi ? Sur Mars, comme je le disais, il n'y a pas d'oxygène, il y a une atmosphère qui est très ténue, qui est beaucoup moins dense que celle de la Terre, et il n'y a pas d'oxygène dans cette atmosphère. Nous, sur Terre, êtres humains, pour vivre, nous avons besoin d'oxygène. Donc là, il y a un petit instrument qui part, enfin un instrument qui n'est pas négligeable, qui part sur le rover Mars 2020, qui est une espèce de centrale chimique qui va attraper le CO2 de l'atmosphère martienne, qui va faire ce qu'on appelle une réaction d'électrochimie, et essayer de séparer, parce que dans CO2, il y a du carbone et de l'oxygène, et qui va essayer de récupérer l'oxygène de ce CO2 pour voir est-ce qu'on est capable de l'extraire, quel est le bilan énergétique, quel est le rendement, etc. Et donc, c'est un premier pas, je dirais, pour essayer de se mettre dans cette dynamique d'un jour envoyer l'homme sur Mars. Alors ça, c'est quelque chose d'assez petit. On n'en est pas du tout encore au stade de seul sur Mars. Le plus gros objet qu'on a envoyé à la surface de Mars, c'est le robot Curiosity. C'est une espèce de grosse voiture, quelque chose qui pèse à peu près une tonne. Tout l'équipement qu'on voit dans seul sur Mars représente plusieurs dizaines de tonnes. Je ne suis pas sûr qu'on maîtrise toutes les technologies pour envoyer, par exemple, 10 tonnes, 20 tonnes, etc. Tout l'équipement, tout le nécessaire à la survie des astronautes à la surface de cette planète. Autre problème, c'est, et là je ne parle même pas des problèmes du voyage, on pourra en parler après.
On va en parler après, voilà. Ça m'intéresse moi le voyage.
Ok, et donc il devrait aussi, parce que si on envoie des hommes, il faudrait aussi les faire revenir. C'est un peu le problème de Seul sur Mars, c'est toute la question de
cette chose-là.
Non, alors sur Seul sur Mars, c'est des choses qui sont pas mal faites. D'ailleurs dans le film, il y a ces fameux MAV, ces véhicules, qui permettent de redécoller de la planète et de retrouver un autre véhicule en orbite autour de la planète. Donc ça veut dire aussi qu'il faudrait être capable de déposer ces véhicules. Mais qui dit véhicule, dit carburant aussi. Et c'est peut-être là où il y a un gros problème. Sur Terre, quand vous voyez une fusée décoller de Cap Canaveral pour aller vers Mars, c'est une fusée qui est gigantesque. Et qui est absolument gigantesque par rapport à la taille du petit robot qu'on envoie sur Mars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'essentiel, c'est des moteurs et surtout des réservoirs de carburant pour mettre une accélération absolument colossale pour s'affranchir de la gravité de la Terre. Donc là, si on allait sur Mars, certes, la gravité à
peu
près...
Elle est moins forte.
Elle est trois fois moins forte.
Oui,
mais
voilà.
Par contre, elle est là. Sur la Lune, il y en a qui est encore tout petit, il n'y en a quasiment pas. Sur Mars, il y en a. Donc, il faudra aussi prévoir de quoi s'en affranchir pour pouvoir redécoller. Et donc, tout le carburant nécessaire. Alors là, c'est des choses qui sont à l'étude. Typiquement, ce qu'on peut envisager, c'est d'aller, un peu comme c'est fait dans le film d'ailleurs, le véhicule que va récupérer Watney est un véhicule pour la mission suivante, la fusée sur laquelle il va aller redécoller. C'est une fusée qui a été déposée pour la mission suivante. Et donc, c'est une fusée qu'on peut aller déposer en avance, par exemple, mettre à l'intérieur, par exemple, un petit réacteur nucléaire, une petite centrale chimique, et essayer de créer du carburant in situ sur la planète et non pas l'amener, ce qui permet de gagner du poids, etc.
Ah oui, j'ai l'impression que ces robots font tellement de choses différentes. Quelle taille ça fait à peu près ? Parce que depuis tout à l'heure, on dit, dans le robot, il y a ça qui fait ça. J'ai l'impression que c'est une mini centrale à eux tout seuls. Donc, quelle taille fait un robot à peu près envoyé ? Le plus grand, c'était Curiosity, donc oui. Le plus lourd. Quelle taille il fait ? Ou bien Mars 2020, ils font quelle taille ?
Alors que Mars 2020, il est dérivé de Curiosity, il fait à peu près les mêmes dimensions. La taille, il fait le sommet du mât, ça fait à peu près, je dirais, 2m20, 2m50. Le corps du robot, je dirais que ça fait à peu près, je vais certainement exagérer, mais je dirais de l'ordre de 3 fois 2 mètres à peu près. Donc c'est comme un gros SUV, en fait, quelque part.
D'accord.
Voilà. Mais ce robot-là, il n'a pas du tout toute la technologie dont on vient de parler pour pouvoir redécoller, le carburant, etc. Ces robots, comment ils fonctionnent ? Ils fonctionnent avec un réacteur nucléaire. Ils ont une petite pile nucléaire au plutonium.
C'est pas dangereux. Comme dans Retour à le futur. Enfin, ça, au début, ça marchait avec du plutonium.
C'est du plutonium sur Curiosity et sur Mars 2020. Ça fait longtemps, hein, c'est pas nouveau. Il y en avait dans certaines des missions Apollo. C'est une technologie que la NASA utilise depuis longtemps. Et là, l'idée, c'est que la radioactivité est en train le plutonium est en train de se désintégrer. Il génère de la chaleur. On utilise cette chaleur pour générer un courant électrique qui va permettre aux robots de fonctionner. Mais les puissances qu'on délivre comme ça sont beaucoup trop faibles pour pouvoir redécoller ou quoi que ce soit.
Et donc tout à l'heure on parlait, parce que le fait est que Mars c'est inhabitable, hein. En l'état c'est pas facile comme ça pour un être humain, sans casque, sans rien, sans... même parce qu'on voit ce cher Watney, ce cher Matt Damon dans le film, faire pousser de la pomme de terre. Donc si on a bien compris, techniquement le sol de Mars peut accepter de la pomme de terre.
Alors oui, mais alors c'est pour ça qu'il y a la fameuse histoire avec, je vais pas employer le mot, mais avec les engrais sur Mars.
Ah c'est qu'a priori excréments, c'est du compost. Hein.
Voilà, et c'est une terre a priori stérile et qu'on sait bien que, alors je suis pas expert en patates, hein. Mais bon, il faut certes d'avoir des sels minéraux, mais il faut aussi avoir une composante organique dans le sol. Et ça pose plein de questions d'ailleurs, parce que toutes ces missions dont on parle jusqu'à maintenant, il y a quelque chose d'extrêmement sérieux qui s'appelle la protection planétaire. C'est-à-dire que tous les robots qu'on envoie sont complètement stérilisés avant de les envoyer, parce que l'idée c'est de ne pas aller contaminer une planète sur laquelle on veut aller voir s'il y a eu ou s'il y a de la vie.
Oui, on veut pas devenir un boulet supplémentaire pour la planète.
Pour la planète. Et donc là, si on envoie l'être humain, c'est une espèce de centrale bactérienne qui produit plein de choses. Là, ça va poser d'autres problèmes de ce point de vue-là.
Ah oui, on risque dans ce cas de faire du mal à un environnement qui existe et de venir totalement le contaminer. Un petit peu comme quand, sur notre planète Terre, on est allé faire des conquêtes et vers d'autres territoires et malheureusement, on a fait beaucoup de mal en arrivant Amériques ou des choses comme ça.
Voilà, il y a des exemples, par exemple, si je dis pas de bêtises, il me semble que les Anglais ont amené le lapin en Australie qui a prospéré et qui a éliminé un certain nombre d'espèces indigènes, qui étaient fatales à un certain nombre d'espèces indigènes. Donc là, l'idée, c'est de ne pas reproduire ça sur Mars. Mais il y a d'autres problèmes sur Mars. Donc pas de lapin.
Pas de lapin
sur Mars. Mais le lapin, à la limite, on le verrait. Il y a d'autres problèmes. Un autre problème, c'est la pression aussi, par exemple. Comme je disais, la pression est à peu près 100 fois moins forte que sur Terre. Donc, par exemple, là, sur sol sur Mars, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont des... Si vous comparez les missions Apollo, par exemple, qu'ils avaient des grosses combinaisons, là, il a une combinaison assez petite. Ces combinaisons devront aussi résoudre le problème de la pression. Pourquoi ? Parce que sur Terre, on a une pression d'à peu près 1000 millibars, ce qui fait que l'eau rentre en ébullition à peu près une centaine de degrés. Sur Mars, cette pression, elle est plutôt de l'ordre de 5 millibars. Ce qui fait que l'eau rentre en ébullition à une température bien inférieure. Ce qui voudrait dire que si la combinaison ne résolvait pas le problème, en fait, votre propre salive rentrerait en ébullition. Etc. Donc vous voyez, c'est plein de petits problèmes physiques, mais qui sont très sérieux. Le problème de l'irradiation, le problème de la température, le problème de la pression, le problème de l'oxygène, le problème de l'eau.
Faut pas y aller, c'est trop compliqué.
Et un autre grand problème, c'est le problème du temps, en fait.
Voilà, j'allais venir aussi à ça, parce que le temps, pour plusieurs raisons, j'imagine le temps sur place au sein de Mars et le temps pour aller sur Mars.
Alors les journées martiennes, par exemple, sont un petit peu plus longues que les journées terrestres. C'est 24 heures et à peu près une demi-heure, je crois. Donc c'est pas considérablement différent. Par contre, une année est beaucoup plus longue parce que Mars est plus loin du Soleil. Le temps, je voyais plutôt ça. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect voyage. En fait, la Terre tourne autour du Soleil, Mars tourne autour du Soleil. Donc il y a des moments où les planètes sont très proches et des moments où les planètes sont très lointaines. En gros, les astrophysiciens sont capables de calculer des trajectoires et nous disent que tous les deux ans, il y a une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre de tir qui est favorable, pendant laquelle le voyage vers Mars va être minimal. Et ce voyage minimal, il est de l'ordre de 6 mois. Mais cette fenêtre de tir, c'est un moment où les planètes, la conjonction des planètes fait que c'est pas trop long. Mais entre-temps, les planètes vont bouger entre-temps. Ce qui veut dire qu'un voyage vers Mars, au minimum, c'est quelque chose qui durera à peu près 640 jours. Donc 640 jours, ça fait plus d'une vingtaine de mois, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est le voyage aller. Ça représente une trentaine de jours sur place et le voyage retour. Donc vous allez faire à peu près une vingtaine de mois pour passer à peu près un mois sur place, ce qui est quand même pas très rentable. Il y a d'autres conjonctions, c'est plutôt peut-être vers ça qu'on s'oriente, qui sont des voyages un petit peu plus longs, où à ce moment-là, ça serait de l'ordre de 910 jours. Donc 910 jours, ça doit faire, on va dire, entre 2 ans et demi et 3 ans.
Oui, c'est ça, c'est à peu près 3 ans. Ouais.
Voilà, 3 ans, et là, ça permettrait de passer à peu près 550 jours, c'est-à-dire à peu près une année et demie sur place. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Alors le temps, ça peut être un challenge, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on envoie des gens dans l'espace pendant presque 3 ans. On n'a pas fait ça jusqu'à présent. Hein. Je crois que le record de durée dans l'espace passe en plusieurs séjours, c'est de l'ordre de 800 jours pour un Russe. Mais à chaque fois, il est revenu sur Terre, il est allé dans la station spatiale où il a fait des vols habités en orbite autour de la Terre.
Mais d'affilée, quand on reste, c'est quoi le record à peu près?
Je pense que là, je vais vous dire une bêtise, mais je dirais que c'est quelques mois. Je dirais que c'est 5-6 mois à peu près.
Mais c'était pas ça, Thomas Pesquet, il est pas resté à peu près 6 mois.
4-5 mois, je sais plus exactement. Alors, il peut y avoir des aspects psychologiques, mais après tout, l'être humain a fait des explorations où il partait pendant très longtemps comme ça. L'exploration des pôles à l'époque, dans des milieux complètement hostiles, s'est déroulée sur plusieurs mois. Les voyages de Magellan ou de James Cook ont duré plusieurs années aussi, mais ils étaient sur Terre.
Voilà.
Là, un autre problème, c'est la communication aussi. Mars, le temps minimum de communication entre Mars et la Terre, il est de 5 minutes. Ça, c'est une communication directe, mais si on passe par les satellites, c'est plutôt de l'ordre de 20 à 25 minutes. Ça veut dire que si on envoie une instruction depuis Mars vers la Terre, elle va mettre une vingtaine de minutes à arriver, et la Terre envoie une instruction, donc ça va remettre une vingtaine de minutes. Donc ça veut dire qu'on a à peu près au minimum une demi-heure, 40 minutes de communication.
D'accord, oui, donc on a ces problématiques évidemment de temps, puis surtout on ne sait pas ce que ça fait un corps dans l'espace aussi longtemps.
Ça, c'est quelque chose d'important, ce que vous dites. Ça fait partie des études qui sont menées sur la station spatiale et qui ont été faites sur Thomas Pesquet en particulier, où à la fois les os, ça pose des problèmes sur les os, ça pose des problèmes sur les muscles, il peut y avoir des atrophies musculaires, ça pose des problèmes sur les yeux, évidemment, parce que les yeux sont habitués à une pression sur Terre qui n'est pas forcément la même quand on va ailleurs. Donc effectivement, ça pose plein de problèmes sur l'organisme lui-même. Ça pose aussi des problèmes, comme je disais, par rapport à la radiation, parce que quand il va voyager, alors là, il n'y aura plus du tout d'atmosphère, donc il faut être capable de prévoir un véhicule avec un blindage suffisant et qui soit suffisant pour pendant les 6 mois de voyage. Oui, donc il y a encore plein de choses à résoudre.
Bon, ben alors c'est pas pour tout de suite que Seul sur Mars sera un documentaire du futur. Visiblement, on n'y est pas encore. Merci beaucoup, Olivier Bessac, d'être passé par nos micros pour nous donner quelques nouvelles de la planète Mars. Il est désormais temps d'atterrir et de se donner rendez-vous dans un petit mois pour un nouvel épisode de 7ème Science, un podcast Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.